Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. Les Jeux Olympiques de Pékin touchent à leur fin avec des audiences toujours aussi stratosphériques portées par une moisson de médailles pour nos athlètes. Prochaine étape maintenant, Paris 2024. L'Info C'est Clair est intitulée JO, rugby, foot. Pourquoi tant de passion ? Nos invités, Carole Gomez, vous êtes directrice de recherche à l'IRIS en géopolitique du sport et vous avez publié avec Pascal Boniface sur la gouvernance du sport cette étude intitulée « Sport mondialisé, les défis de la gouvernance ». Armand de Randinger, vous êtes consultant international pour le sport et l'olympisme, auteur du Paris Olympique de 2024, chance ou malédiction, 24 défis à relever, c'est aux éditions Vigo. Et enfin, Manuel Tissier, vous êtes rédacteur en chef de Temps additionnel, donc tous les vendredis soirs sur cette chaîne, sur France Info, et c'est à 22h30 pour ceux qui ne le regarderaient pas, mais qui vont le regarder.
Alors,
voilà, exactement. C'était une des plus belles médailles, même peut-être la plus belle médaille française de ces Jeux Olympiques de Pékin. Je veux parler de la médaille d'or pour la danse sur glace, moment féerique. On regarde Anthony Joly et Julien Cordier.
Sur la glace, ils ne font qu'un. 4 minutes en fusion et au bout le rêve d'une vie. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron sont pour la première fois champions olympiques.
Je pense que j'ai jamais été aussi stressé de ma vie, mais
c'était le moment pour lequel on travaillait et on l'a fait honneur à ces 4 dernières années et on est super super heureux.
Depuis 7 ans, le duo est une machine à gagner. 4 fois champion du monde, 5 fois champion d'Europe et désormais champion olympique. Le point d'orgue d'un long parcours pour les deux camarades de glace qui ont commencé à patiner ensemble à l'âge de 9 et 10 ans. Cette nuit, ils ont survolé le programme libre. Pas une faute, pas un accroc. Pour convaincre le jury, il faut allier technique, vitesse et émotion. Le duo est d'une fluidité totale. L'impression que tout est simple. Dans le puits de Dôme, la famille de Guillaume Cizeron se fige en attendant les résultats.
C'est un bonheur, j'aurais envie de les avoir dans mes bras, là, de les serrer. Qu'est-ce qu'on est heureux pour eux, qu'est-ce qu'on est heureux. Ils attendaient vraiment ça.
Il y a 4 ans, sur le podium olympique, le duo était une marche en dessous. La robe de Gabriela Papadakis s'était détachée lors du programme court. La médaille d'or en volée. Cette fois, elle est pour eux. Les enfants sont devenus grands.
Alors, Manuel Tissier, la danse sur glace a ce supplément d'âme que c'est, en plus d'avoir la fierté de la médaille, le drapeau, l'hymne, on a en plus la féerie et la grâce, quoi. D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans le reportage, on a l'impression que tout est facile. Quand c'est bien fait, on a l'impression que tout est facile. C'est ça le secret ?
C'est ça le secret. Et puis, il y a tous les ingrédients de la très belle histoire avec Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis. Ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Ils ont eu une adolescence ensemble qui était déjà fusionnelle. Ils ont été réunis pour la performance. Et ils livrent sur la glace, en fait, comme le condensé d'une histoire de vie. C'est-à-dire qu'ils tournent ensemble, ils sont complètement fusionnels. Et donc, c'est retranscrit à travers l'écran. Ils ressortent de leur prestation quelque chose d'un peu universel et qui fait la grâce du sport, c'est-à-dire l'ultra-performance, parce qu'il ne faut pas nier athlétiquement ce que c'est de faire ça. Ça ne se voit pas et on a juste envie de les accompagner et de glisser avec eux. Donc, il y a un peu une allégorie de la facilité et de l'effort en même temps et d'une histoire, d'une mythologie, d'une montée vers la gloire et puis aussi de la résilience, puisqu'ils ont été, ils ont eu du mal aussi à être médaillés d'or. Ils ont enfin réussi. Donc, il y a tous les ingrédients du sport et ce qui en fait la réussite et la valeur.
Alors, pardon d'être trivial, Armand de Randinger, de quoi on vit ? Alors, j'ai vu qu'il y a un hit parade quand on gagne des médailles. D'abord, ce qui est très impressionnant, c'est que selon les pays, on n'a pas le même argent. On va voir le hit parade. Par exemple, quand une médaille d'or en Turquie, le gouvernement turc vous donne 330 000 euros. C'est Forbes, hein, qui a téléphoné à toutes les fédérations. Les Français, donc, ils vont toucher, à eux deux, j'imagine, 65 000 euros. Et en Angleterre, on n'a rien. On a 0 euro quand on gagne une médaille d'or. D'abord, pourquoi une telle disparité ? Pourquoi est-ce qu'à Hong Kong, on touche plus de 500 000 euros et en Norvège, rien pour une médaille d'or ?
Pour une raison bien simple, parce que le sport, cet écosystème du sport, contribue-t-il au développement d'un pays ? à l'image du pays ou pas. Et ça, c'est intimement lié à la volonté politique et aux investissements que l'on fait dans le sport. En France, on est très sportif. 30 millions de gens pratiquent le sport. 15 millions sont licenciés, ce qui est quand même beaucoup, contrairement à ce qu'on peut raconter. Mais le sport représente moins de 1% du budget de notre nation.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne leur permet absolument pas de vivre à eux deux, là, 65 ah non, 000 euros. C'est un petit bonus qu'on leur donne. Alors, de quoi vivent-ils? Parce que Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, de quoi la prochaine fois qu'ils vont, c'est dans 4 ans aux Jeux Olympiques?
Non, eux, ils ont atteint, c'est comme dit Régis Montpensier, c'est une histoire. Vraiment, ce couple représente ce qu'est le sport, en fin de compte, la performance, l'esthétique. Et puis en même temps, il y a une histoire depuis leur plus tendre enfance. Ils ont abouti à coup de vraiment de travail à être champion du monde 4-5 fois et champion olympique pour une fois. Ils ont vécu à coup de bourse et à coup de partenariats sportifs relativement limités. Ce n'est pas la somme d'argent qu'ils reçoivent aujourd'hui qui va faire qu'ils vont être richissimes par la suite. Par contre, ils pourront, parce qu'ils ont bien réussi, parce qu'ils ont une belle gueule et une histoire, ils vont sans doute décrocher des contrats de sponsoring importants.
Ah, en fait, voilà. Quand on est un grand sportif, on vit de son sponsoring. Alors, je m'attendais à cette réponse. J'ai regardé, j'ai tapé « sponsor Laure Manaudou » sur Internet. Vous allez voir, effectivement, on va voir ce qui tombe. Voilà, il y a un paquet. On s'aperçoit que Laure Manaudou a prêté son image à un paquet de marques. Au fond, c'est ça qui vous fait vivre ensuite quand on est un grand. Parce qu'on se dit toujours, pardonnez-moi, moi je ne connais pas tellement ce monde-là. On se dit toujours, il y a les grands footballeurs qui oui. gagnent des millions. On se demande si dans l'athlétisme ou dans l'olympisme, on n'a pas des gens qui sont vraiment amateurs. C'est-à-dire qu'ils en tiennent un bar tabac et puis qui partent aux Jeux Olympiques gagner leur victoire parce qu'en fait, leur sport ne leur permet pas de vivre. C'est une question que je vous pose.
Alors, pour le coup, je ne suis pas certaine qu'il y ait des tenanciers de bar tabac parmi les Olympiques. En revanche, ce qui est vrai, et il y a un exemple lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo qui était particulièrement intéressant, c'était celui d'Astrid Guyard, qui avait sa carrière, qui était vraiment décomposée en trois parties. Première partie de la journée, elle s'entraînait, elle est escrimeuse et fleurettiste hein, précisément, où elle a obtenu une médaille d'ailleurs à Tokyo avec en équipe. La première partie de la journée, elle s'entraînait. La deuxième partie, elle a allé, si ma mémoire est bonne, chez Thales, où elle était ingénieure aéronautique pour justement faire un peu comme tout le monde le métier dans lequel elle progressait. Et le soir, elle retournait s'entraîner pour faire un certain nombre de choses, en sachant qu'elle devait sans doute un peu s'ennuyer, puisqu'en plus, elle avait des fonctions au sein du Comité National Olympique français, où elle était représentante des athlètes. Et par ailleurs, comme il lui reste un peu de temps dans la nuit, elle a aussi lancé une carrière de dessinatrice et pour d'écriture de livres. Ah donc, oui. Il y a vraiment ce côté, vous avez tout à fait raison de parler des footballeurs qu'on a tendance à considérer comme étant l'immense majorité des sportifs, alors qu'en réalité, non, ça n'est qu'une une infime minorité. Et en plus, quand on parle des footballeurs, on a tendance à penser aux grandes stars, à Messi, Neymar, etc. Alors qu'en réalité, il y a des différences.
Qui ne peuvent pas vivre de leur sport.
Au sein même, par exemple, du football, avec des clubs de Ligue 1, de Ligue 2, qui n'ont pas forcément toujours les moyens de pouvoir vivre. Il faut toujours se référer non pas à la moyenne, mais à la médiane, et voir quel est le salaire le plus haut et le salaire le plus bas.
Et pourtant, Manuel Tissier, on se dit que pour gagner être champion olympique, on est 7 milliards sur Terre, il faut s'entraîner tous les jours. Il ne faut penser qu'à ça. Je vous dis ça. Est-ce que Laure Manaudou, tous les jours, elle allait au bassin, disait-elle. Pour certains, d'ailleurs, arrêter le sport de haut niveau, c'est une libération, tant c'est une souffrance que de devoir s'impliquer au quotidien pour donner ces 4 minutes de bonheur qui n'est que la partie émergée et spectaculaire de l'iceberg sportif.
Ça dépend des sports, mais un sport comme la natation où tous les matins à 5 heures on compte les carreaux dans la piscine et on fait des allers-retours, effectivement, et c'est une implication de tous les jours. Mais si vous voulez, en dehors de la rétribution monétaire, une médaille d'or ou le sport de nouveau, c'est aussi des rétributions sociales énorme et politique. On a énormément, on apprend énormément sur soi, on s'ouvre un réseau immense. Nous, dans temps additionnel, il y a 15 jours, on savait Gwendal Pezra, qui a eu une médaille d'or en 2002, comme en couple avec Marina Enisina. Qu'est-ce qu'il a fait derrière sa médaille d'or? Il a fait de la politique. Il a été élu au conseil régional de Rhône-Alpes. Il a développé des activités de consulting, parce que on se sert aussi de son expérience pour la redonner. Et ça ouvre des portes. Donc les sponsors, c'est une chose, mais ça ouvre aussi des compétences. On devient aussi plus fort, on devient quelqu'un qui peut, par son simple visage ouvrir une porte, être reconnu. Et donc ça, ça a une valeur aussi. Donc c'est pas seulement le fait d'avoir 65 000 euros, c'est aussi de peser une notoriété incroyable. Papadakis Cizeron, ils vont être partout là pendant une semaine. Alors que, par exemple, les fondeurs qui ont eu une médaille de bronze en ski de fond, ben voilà, eux, ils vont disparaître. Ils ont eu un moment de gloire.
Armand de Rendinger, quand vous mettez champion olympique sur votre carte de visite, ça vous change la vie, toute la vie ?
Ça vous change la vie, c'est sûr, parce que vous avez atteint le Graal. Le Graal, c'est les Jeux olympiques. Alors, ils sont controversés, discrédités, tout ce qu'on veut. C'est le Graal. On a toute une carrière pour devenir champion olympique. On est champion olympique à vie. C'est une marque indélébile.
Et alors, après, on peut faire la politique
alors,
aussi.
Je vais très bien. À la suite de ça, bon, les gens se sont orientés avec des inconnus totaux, à ouvrir les bars, le penalty ou l'olympisme, pour faire court. On a trouvé toutes les quatre figures de la politique et ainsi de suite. Non, ceux qui réussissent en tant que champion olympique, il faut d'abord d'une part qu'ils soient vraiment performants, intelligents, savoir se monnayer, avoir une gueule.
Mais est-ce qu'on peut être idiot et être champion olympique ? Moi, j'avais été frappé pour avoir donné des cours à l'ICEP de la maturité et de la curiosité de tous les élèves et que je trouvais supérieurement intelligent aux meilleurs élèves de soi-disant grandes écoles de commerce françaises.
Alors, c'est clair, pour être champion olympique, il faut être intelligent. Il n'y a pas de problème s'il y a le corps, mais aussi il y a la volonté et puis l'esprit. Le modèle, c'est Jean-Claude Killy. Alors, naturellement, moi, je suis un bébé de Jean-Claude Killy, donc je ne suis pas tout à fait neutre. Mais Jean-Claude Killy, à 24 ans, triple champion olympique, alors qu'il n'a eu que des déceptions au préalable. Antoine Riboud.
Il va voir Antoine
Riboud qui lui dit, écoute, être moniteur à Val d'Isère, ça ne présente aucun intérêt. Tu pars aux États-Unis et tu promeus ton intelligence et ton savoir-faire, ta compétence physique et ta compétence intellectuelle. Il a rencontré Rockefeller, il a créé des pistes de ski là-bas. Et aujourd'hui, c'est l'exemple que tout le monde peut imiter. Et je pense que des Cizerons, Papadakis, en ce qui concerne les patineurs, un Kevin Mayer, parce que c'est intéressant de Kevin Mayer, qui est décathlonien, c'est le sport le plus dur. Teddy Riner aussi d'un côté, mais lui, il a déjà commencé déjà à basculer de l'autre côté. Kevin Mayer, il en a fond pour être champion olympique, il a été vice-champion olympique. Il sera peut-être, on l'espère, champion olympique à Paris en 2024, avec la gueule qu'il a, l'intelligence qu'il a, parce qu'il a véritablement une intelligence supérieure aux autres, en tant que champion, mais en tant que lui-même. Et là, il peut aller très très loin pour une sponsoring.
Carole Gomez.
Ouais, ce qui est aussi, à mon sens, ce qu'il faut aussi avoir en tête, là, on parle de belles histoires qui se terminent bien, des personnes qui arrivent à rebondir après cette carrière. Il y a deux choses qui me semblent importantes à rappeler. Une, il y a des fois où l'intelligence, la belle gueule, la réussite sur le plan sportif ne suffisent pas. Il y a aussi des athlètes qui ont connu, après la gloire olympique, des moments de difficulté vraiment importants. On avait eu, il y a quelques années, Émilion Desmolles, qui était judokate, qui avait eu énormément de mal à rebondir parce que pour elle, elle en arrivait à penser que c'était presque une malédiction d'avoir été championne olympique parce qu'elle n'avait pas réussi à rebondir derrière, parce que tout ce qu'elle avait, le temps qu'elle avait passé...
Elle avait atteint l'objectif et après, c'est
mal. Exactement. Ouais. Et il y a deuxième élément qui me fait aussi penser à cela, et qu'on voit un peu réapparaître dans les Jeux de Pékin, c'était aussi la détresse profonde dans laquelle certains athlètes peuvent se retrouver. Parce que c'est une pression qui est considérable. Et on peut penser à Simone Biles, la gymnaste américaine multimédaillée, multi-olympique, qui a renoncé à Tokyo à faire certaines épreuves parce qu'elle sentait que il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Alors, il y avait tout un contexte aussi très très dur et dramatique de violence sexuelle auparavant, mais qui montrait que il y avait aussi une fragilité importante. Et c'était la première fois avec Naomi Osaka aussi qu'elle arrivait,
cette championne de tennis
japonaise, qui est tout simplement
qui est en train de craquer, quoi, parce qu'il y a trop de pression.
Exactement. Et donc c'est aussi ça qui, à mon sens, qu'il faut aussi avoir en tête sur ces belles histoires qui sont évidemment très belles, mais on a aussi une fragilité.
Mais il y en a beaucoup qui participent.
Exactement.
C'est vrai que Bartoli, attendez, son prénom m'échappe.
Marion
Bartoli, qui a gagné Wimbledon. Laure Manaudou, moi j'avais été frappé, mais je connais mal ce mot, de la souffrance qu'elle s'infligeait quotidiennement et de l'asservissement que représentait pour elle leur sport, qui en fait n'était plus une passion, qui était une laisse. Et ajouter à la pression, il y a des gens qui craquent, quoi. C'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Oui, complètement. En fait, c'est le sport de haut niveau, c'est l'apprentissage permanent et quotidien de la douleur que vous allez intérioriser, accepter. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec des situations où les jeunes hommes, jeunes femmes ou plus anciens sont absolument passionnés par leur sport, mais complètement, au bout d'un moment, dégoûtés parce qu'ils n'ont plus envie.
C'est un aspect qui est quand même incroyable aujourd'hui, l'histoire d'Osaka et puis de la gymnaste américaine en est l'illustration parfaite, c'est que pour être champion olympique, vous ne pouvez pas être champion olympique tout seul. Vous avez un coach. Vous avez un coach qui vous dit, c'est ceci que vous devez faire, vous devez travailler 24 heures sur 24 pour être champion olympique. Ah, et lorsque vous êtes champion olympique, en règle générale, votre coach ne vous abandonne pas, il s'occupe de quelque chose. Et vous, vous trouvez seul, du jour au lendemain. Ah, plus de parents, plus de coach.
Et puis il y a un apprentissage permanent de la concurrence à un âge où on n'est pas habitué à ça. Moi j'ai fait des reportages quand j'étais à Europe, Axel, on était ensemble sur les centres de formation. Bah, à 12, 13, 14 ans, il y a des enfants à qui on dit oui ou non, feu rouge, feu vert. C'est-à-dire que tu as un rêve sur lequel on travaille pour une blessure, pour un manque de performance, et bah, on dégage. C'est un apprentissage qui est extrêmement rude. C'est les plus forts qui survivent. Et il y a une espèce de sélection qui se fait et qui est extrêmement violente. Alors, on commence à s'en rendre compte, et Carole a raison, sur la santé mentale et sur les dégâts que peuvent faire justement
ces performances. Mbappé, il était enfant, il s'est retrouvé propulsé dans un monde d'adultes.
C'est une exception absolue. C'est une exception absolue. Il a un père qui est entraîneur de football, avec un frère qui était footballeur professionnel. Il a un entourage familial extrêmement présent, qui lui a donné toutes les armes, qui s'est méfié effectivement de tous ces pièges-là. Et puis, il a un talent qui est au-dessus de la norme.
Alors, là, on parle des disciplines qui sont très, très féeriques. Hein, la danse sur glace, on a parlé du football, on a parlé du tennis. Mais il y a des sports, franchement, on se demande d'où ils viennent, d'où ils sortent. Est-ce qu'ils ne sont pas lunaires? Je veux parler du curling. Dans le curling, tout est lunaire. Même la pierre qui sert de patin, elle vient d'une île inhabitée. Toutes les pierres viennent d'une même île inhabitée au large de l'Écosse. Regardez ce reportage surprenant de Romain Michelot.
Au loin, cet îlot perdu en mer au large de l'Écosse. Son nom, Ailsa Craig. Une île inhabitée, mais une île au trésor pour tous les amateurs de curling. Ce sport qui consiste à faire glisser une pierre sur une cible. Ici, de vastes carrières de granit. C'est cette roche qui sert à la fabrication des pierres de curling dans le monde entier, et ce depuis près de 200 ans.
Ça fait 17 ans que je travaille ici. Les Jeux de Pékin, c'est ma quatrième Olympiade.
Les pierres d'Ailsa Craig, des habitués des Jeux Olympiques, bientôt sur la glace de Pékin.
Bon, alors Manuel Tissier, c'est quoi ce sport? Vous en parlez souvent, vous, dans le temps additionnel? C'est qui?
Une fois tous les 4 ans.
Tous les 4 ans.
En fait, ça fait partie de ces sports, effectivement, qui émergent une fois tous les 4 ans, alors qui ne sont pas très connus, mais qui ont une esthétique telle qu'on retient. Vous en parlez aujourd'hui parce que l'esthétique est incroyable et qu'il y a une forme d'éloge de la lenteur aussi dans ce sport. Dans le sport de haut niveau, c'est l'explosion, la testostérone ou en tout cas les stéroïdes peut-être de temps en temps, le muscle, la vitesse. Et là, on est sur quelque chose d'extrêmement précis, extrêmement lent, et une forme de poésie dans ce sport qui revient tous les 4 ans un peu. Et puis ça permet aussi d'amuser aussi la galerie, parce qu'il y a une gestuelle quasi domestique hein, quand même sur le
oui, quasi le nettoyage le mot et le bon mot, on passe le balai.
Ben oui. voilà, et après, donc c'est un sport ancestral, puis il y a des fédérations très puissantes aussi qui pèsent beaucoup sur le sport d'hiver, qui sont la Norvège, les pays scandinaves, ou là-bas, ben c'est une vraie
En France, il y a des licenciés, parce que c'est vrai que tous les 4 ans, il y a une exposition, du coup, exceptionnelle.
Non, il y a très peu de licenciés, non, tout à fait raison. Ces sports mineurs, on les met en valeur pour mettre en valeur en quelque sorte l'olympisme, mais ça illustre parfaitement bien la contribution que peuvent avoir certains pays pour le mouvement olympique d'une manière générale. Comment le mouvement olympique se maintient? C'est en couvrant, c'est en coordonnant l'ensemble des sports, quels qu'ils soient, lorsqu'ils représentent un nombre de licenciés suffisant, qui dépasse le million grosso modo. Je ne sais pas combien il y a de licenciés de curling en France, mais ça ne doit pas dépasser 10 000, à mon avis, ça va être bien en dessous. On n'est pas dans le million qui est prévu. Mais le Canada, la Suède, la Norvège sont des pays qui, et l'Angleterre, sont des pays qui contribuent au mouvement olympique financier. Et le curling, ça fait plaisir à ces pays-là. Donc, il est nécessaire de les rétribuer d'une manière ou d'une autre, en leur la reconnaissance tous les 4 ans, au-delà du sport. Est-ce qu'il est sympathique, pas sympathique? Est-ce qu'il est esthétique ou pas esthétique? C'est un autre débat.
Mais justement, Carole Gomez, on en vient à la particularité de ces Jeux olympiques d'hiver, c'est que n'y participent, il y a peu de pays qui participent. Alors, ce sont Est-ce qu'il y a des parents, est-ce qu'il y a des pays, est-ce que je sais pas moi, est-ce qu'il y a une fédération du Qatar, ça serait grotesque quoi. Donc non. Il faut uniquement avoir des. Ce sont des pays qui ont des cultures.
Là,
il y en a des cultures de montagne.
Actuellement, 91 comités nationaux olympiques y participent, plus l'équipe nationale de Russie olympique qui ne peut pas s'appeler équipe de Russie en raison du scandale de dopage. Mais il y en a 91 qui participent à cette Olympiade-là. Et on sait que c'est un nombre qui est systématiquement de plus en plus important. Ce qui est intéressant là de voir, c'est qu'il y a...
Y compris de pays qui n'ont aucune culture de la neige et où il n'y a pas de neige. Quoi.
Il peut y en... Alors, en général, effectivement, dans le haut du classement, on va retrouver les grands pays de montagne, européens, certains latino-américains, nord-américains. On
les
a
pays
aussi
de neige, quoi.
Les pays de neige, même s'il peut y avoir aussi quelques exceptions. Je me souviens d'un sportif marocain qui s'entraînait dans l'Atlas et qui s'entraînait.
Ah, il n'y a pas quelques stations au Maroc.
Alors, si, si. Ouais. Mais avec, il y avait un élément de développement de ces éléments-là. Ouais. Et là, il me semble avoir vu.
Il y avait une skieuse haïtienne.
Exactement. Et des
Niger, des Saoumons, du Cameroun, etc.
Il y a eu un bob jamaïcain.
Il y a eu une équipe de Jamaïque.
Ce sont les athlètes, mais il faut bien comprendre une chose. C'est vrai que les Jeux d'hiver, ils peuvent très bien se dérouler à Paris, à la limite.
Pékin. Bah là, à Pékin, on savait qu'il n'y avait pas de neige.
Non, mais il faut savoir que Nice était à un moment donné candidat pour les Jeux d'hiver, comme pour les Jeux d'été.
Il n'empêche, la discipline reine des Jeux Olympiques d'hiver, vous allez me dire si je me trompe, c'est le ski alpin, non ? Pourquoi j'en parle ? Parce qu'on a gagné une médaille d'or, c'était mercredi dernier. Donc on va regarder ce sujet de Grégory Naboulé. On va revivre ensemble cette médaille d'or que nous avons remportée mercredi, grâce à lui.
Nous !
C'est le sacre d'un surdoué. Un Vosgien de 24 ans, né pour serpenter entre les piquets. Clément Noël, mention très bien au baccalauréat scientifique, a appris le tracé par cœur. Il récite son ski sur le bout des bâtons et prend la tête du classement après une seconde manche au temps canon. En France, c'est l'heure du petit déjeuner.
Merci de vous être levé tôt.
Mais à Val d'Isère, en Savoie, dans son club de ski, pas besoin de café. Et si la joie ne retombe pas, c'est qu'à Pékin, aucun adversaire ne peut rivaliser.
Un grand champion olympique.
Les larmes d'un entraîneur, l'incrédulité du vainqueur. Clément Noël devient le troisième Français champion olympique de slalom, 54 ans après Jean-Claude Killy, 20 ans après Jean-Pierre Vidal.
Il est champion olympique.
Ouais, voilà, ça, faut pas trop me le dire, ça va me...
Il est champion olympique.
Ouais, c'est pas une ambiance très très festive au village olympique, je vous avoue que...
On vient de la faire, nous.
Mais on va peut-être réussir à trouver une bouteille de champagne.
Réputé pour son calme olympien, Clément Noël est à présent une référence olympique.
Voilà. Manuel Tissier, vous avez été frappé parce que j'ai dit que nous avons gagné cette médaille mercredi dernier. Or, c'est Clément Noël, tout seul, qui l'a gagné. Ça veut dire quoi, ce « nous » là que j'ai utilisé
Je pense que vous avez fait des efforts aussi terribles pour aider Clément Noël, en l'aidant, en le poussant.
Mais non, c'est mais ce qui veut dire que... Ski.
Non, ça veut dire qu'en fait, le sport sert beaucoup à ça. Il sert à fédérer et à emmener une nation, à créer des émotions qu'on ressent. Et une forme... à la fois d'empathie, mais aussi de retour sur investissement émotionnel. C'est-à-dire qu'on est tellement dedans qu'on a envie de s'approprier un petit peu ça, mais de manière sympathique. Mais ça vient naturellement. Nous avons gagné cette médaille. On a gagné.
Je peux casser votre bonheur, là. En 2018, nous avions gagné la Coupe du Monde de football.
Oui,
on était tous très contents.
Vous aviez marqué plusieurs
buts, même. On va regarder là, le classement en nombre de médailles dans le monde. On va le regarder. Ouais. Alors, avons-nous gagné ? Nous sommes numéro 10. Carole Gomez, pardon, mais quand on voit ça de l'un, on appelle ça le ski alpin, les Alpes. Hein. La France, qui est un pays béni des dieux pour son domaine skiable, enfin les Alpes, et comment se fait-il que nous soyons dixième derrière, par exemple, les Pays-Bas ? Je me trompe, aux Pays-Bas, il n'y a pas de ski, il n'y a pas de montagne.
Les patinoires.
Deux éléments. Premier élément, déjà, on n'est pas les seuls à avoir les Alpes chez nous. On voit la Suisse, on voit l'Italie aussi, qui sont particulièrement bien classées. L'Autriche également. L'Allemagne. Il y a également les pays Norvège, Suède, qui sont particulièrement bien classés. Deux éléments par rapport à ce que vous avez dit. Un, comment est-ce qu'on explique qu'il y a des pays qui... qui sont un peu plus surprenants, les Pays-Bas par exemple, qui sont présents. Ça, c'est parce qu'il y a aussi une stratégie de la part des pays, des différents États, de miser sur certains sports en particulier. Par exemple, sur les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver, vous allez avoir évidemment le slalom, le biathlon, etc. Nous, on a, en France, on a plutôt bien misé sur le biathlon et ça nous a plutôt réussi. Dans le cas des Pays-Bas, ils ont plutôt misé sur tout ce qui était short track. En gros, quand vous travaillez sur la patinoire, des courses de vitesse en patin. Et là, on sait qu'il y a énormément de médailles à se répartir. Et donc, c'est aussi une approche très factuelle de savoir où est-ce qu'on peut arriver à performer, où est-ce que les autres nations sont peut-être moins importantes, et donc où est-ce qu'on a une manière de venir récolter des médailles. Et deuxième élément intéressant sur le tableau que vous avez montré, c'est la Chine. La Chine qui était, il y a quelques années, ne serait-ce qu'en 2000...
Qui est quatrième, là.
Qui est quatrième, ce qui est énorme, ce qui est son meilleur pour l'instant résultat pour les Jeux d'hiver, jamais enregistré. D'habitude, elle est plutôt autour de la 10e, 15e
classe. Il n'avait pas de culture sportive. Le patron du Club Med a dit, moi, j'ai importé le...
Culture sportive
oui.
d'hiver.
D'hiver, oui, oui. Ils ne savaient pas skier, les Chinois.
En gros, au début des années 2000, j'avais regardé dans les archives, au début des années 90, il y avait un domaine skiable en Chine. Chine. Aujourd'hui, il y en a un peu plus de 600. On considérait qu'il y avait à peu près 10 000 sportifs d'hiver en Chine au début des années 90. Et là, alors selon les chiffres du parti, il y en aurait 300 millions. Parce qu'il y a un vrai investissement qui a été fait, parce qu'on veut aussi donner à la classe populaire chinoise l'opportunité de pratiquer des jeux d'hiver. Et puis il y a aussi un aspect purement économique. Il va y avoir des investisseurs, il va y avoir des sponsors, il va y avoir des remontées mécaniques et toute l'industrie du ski ou des sports d'hiver qui va pouvoir se développer. Et c'est un vrai objectif de la Chine. D'une part, de développer cet élément-là, mais aussi le fait d'organiser ces Jeux olympiques et paralympiques, c'est évidemment pour inscrire son nom sur la liste des pays hôtes, mais aussi c'est briller et se souvenir que la Chine a réussi là, sans doute, un très beau hold-up.
Ce qu'on appelle un élément de soft power,
exactement.
Montrer sa puissance.
Par le prisme des médailles et, voilà, et par les performances.
Les performances.
Ça va beaucoup plus loin, et Carole a parfaitement raison. Mais il y a des stratégies tout à fait différentes selon les pays. La France, on dissémine sur tous les sports. La France, il faut que toutes les fédérations soient au même niveau, on met les mêmes moyens, que ce soit du short track ou que ce soit du biathlon et tout, parce que le biathlon, on a 8000 licenciés en France, ce qui est rien au nombre de médailles qu'on obtient. Il y a des pays, et les pays anglo-saxons en premier, eux, ils ciblent. Ah. Et le modèle, il y a deux modèles. Il y a le modèle, dirons-nous, la Corée du Sud et l'Angleterre. Eux, ils n'ont pas fait des lois. La Corée du Sud a dit en 88, on organise les Jeux pour se sortir de notre isolement total et on va investir le plus possible dans des sports où on sera en lutte contre le Japon. Judo, taekwondo, tu sais également. L'Angleterre, c'est différent. 92, la Bérézina à Barcelone. Et ils se disent, on va organiser les Jeux dans l'année suivante, en 2012, 2016, 2020, et on va investir à fond dans un certain nombre de sports. Résultat, des médailles qui tombaient en masse en 2012, parce qu'ils ont ciblé, comme la Hollande a ciblé sur le short track, les sports de glace. La France, on a une autre stratégie, pourquoi pas ?
D'accord, plus égalitaire.
On discute partout, les petits comme les grands.
Voilà. C'est une stratégie qui est en train d'évoluer. Hein. Vous vous souvenez de la remontée de bretelles d'Emmanuel Macron, oui. Le chef de l'État aux athlètes au retour de Tokyo, oui. Qui a dit, en gros, il en faut plus, j'en veux plus. En 2024, on a fixé un seuil de médailles.
Oui, dans deux ans, c'est chez nous.
C'est
oui,
chez nous.
4 médailles.
Oui, et il y a cette idée justement aussi de benchmarker un peu, oui. Comme disait Carole tout à l'heure, le travail sportif, c'est-à-dire d'aller vers
là où il y a les opportunités,
disciplines, voilà. Où il y a des opportunités, où il va y avoir un gain de médailles possible et de mettre les moyens à ces endroits. Ah ouais. Ça a fait lever quelques sourcils dans le monde fédéral et sportif d'une France où le sport est encore
on amène
très
les méthodes du consulting dans le milieu sportif. Quoi, c'est
voilà.
Ça, hein.
Voilà. La start-up nation du sport.
Alors justement, on y vient dans deux ans, les Jeux Olympiques. Bah, le prochain, c'est chez nous, oui. C'est à Paris. Déjà, je vous propose d'avoir un prémisse de ce que sera la cérémonie d'ouverture avec ce sujet de Grégory Naboulé.
Une scène de spectacle, le fleuve comme décor inédit. Le Paris Olympique joue la carte du grandiose pour sa cérémonie. 6 km de défilé entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna.
10 500 athlètes vont donc embarquer au niveau de la Bibliothèque nationale de France pour descendre la Seine jusqu'à la Tour Eiffel. 160 embarcations en tout genre seront utilisées. Imaginez les anneaux olympiques qui brillent dans le ciel, des ballons lumineux tout autour de moi. Voilà à quoi pourrait ressembler l'un des tableaux de cette cérémonie d'ouverture. Le spectacle va durer 3h15 avec comme décor naturel les monuments de Paris, comme ici le musée d'Orsay. 600 000 personnes vont assister à cette cérémonie. Sur le bas des quais, les places seront payantes. Il faudra acheter son billet. Par contre, sur la partie haute des quais ainsi que sur les ponts, les places seront gratuites.
Un parcours entièrement sonorisé, 80 écrans géants, pour des images destinées au monde entier, plus d'un milliard de regards.
Et pour retour sur Terre pour le clou du spectacle, un opéra éphémère entre le Trocadéro et la Tour Eiffel. C'est ici qu'auront lieu les dernières animations et que seront officiellement déclarés ouverts les Jeux Olympiques de Paris 2024.
Armand de Rendinger, quelle image la France va vouloir montrer au monde en 2024? Le monde entier aura les yeux braqués sur cette cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce qui serait réussi? Quelle image il faudrait montrer?
La France doit démontrer, Paris doit démontrer, c'est sa promesse, qu'elle aura des Jeux qui seront spectaculaires, cérémonie d'ouverture, entre autres, soit inédits et responsables. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, ça. Ce n'est pas des mots en l'air. Ça veut dire que vis-à-vis de la population, vous et moi, qui nous passionnons pour les Jeux Olympiques, principalement pendant les Jeux Olympiques, vous nous demanderiez avant, vous verriez les sondages, ils ne sont pas forcément favorables pour les Jeux Olympiques. Mais là, il faut que les Jeux Olympiques puissent mobiliser le maximum de gens. Donc, pour que ce soit une réussite, il faut qu'il y ait l'équilibre économique complet. Il faut que la France soit mobilisée. Du coup, la France a créé un concept nouveau qui est de quoi qu'il en coûte olympique, premièrement, et l'olympisation de tout le territoire français. C'est-à-dire qu'on mobilise tout le monde, y compris jusque pour
donc
le
surf. Donc ça ne sera pas qu'à Paris, c'est ce que vous voulez dire?
Ah non, ça, oui, c'est toute la France et ça va jusque pour le surf, à Tahiti et ainsi de suite. Et là, on tombe sur le quoi qu'il en coûte olympique.
Alors ça veut dire quoi? Parce que quoi qu'il en coûte olympique,
on dit que ça coûte cher. Et on mettra tous les moyens aujourd'hui. Et aujourd'hui, nos amis du COJO, du comité d'organisation des Jeux Olympiques, sont contraints par un budget qui est monté de 6,2 milliards à 7,3 milliards, peu importe. Il augmentera certainement plus, mais pas tellement plus. Et ça sera une réussite si véritablement il y a mobilisation complète, 80 médailles et puis l'héritage, 11 milliards derrière. C'est un autre débat.
Carole Gomez, c'est vrai qu'on voit de plus en plus que Paris était tout seul. Tout le monde s'est débiné. Oui. On a l'impression que les pays, même les populations, ne veulent plus organiser ce qui ressemble à de grands barnums. Et à la fin, on se retrouve avec des dettes et des stades inutilisés.
Pour le coup, ça, c'est une vraie menace qui, effectivement, pèse sur l'olympisme. Et ça, depuis une vingtaine d'années. On se rend compte qu'au début des années 2000, il y avait énormément de candidats. Tout le monde restait en lice et qu'il y avait beaucoup de déçus et peu d'élus, avec à chaque fois une ville qui était élue. En 2000, là, pour les Jeux de Pékin, c'est une parfaite illustration. Au début, il y avait six candidats qui avaient déposé leur candidature. Il y en a quatre qui se sont retirés. Cracovie, Lille, Stockholm et Oslo.
Et pourquoi ils se retirent?
Parce que c'est trop coûteux, parce que les populations ne le veulent pas, parce qu'on considère que ces jeux-là ne vont pas forcément être au service de la population et qu'on ne va pas pouvoir les utiliser. Parce qu'on est aussi dans une ancienne logique du CIO ou plus largement des grandes organisations sportives internationales qui c'est un peu une volonté de construire toujours plus grand, toujours plus important, toujours plus cher. Alors qu'en réalité, là, il y a aussi une culture presque de la décroissance qui est un peu en train de se mettre en place, où on se dit, en réalité, organiser des jeux, c'est très intéressant, mais il faut surtout que ça soit utile et que ce soit ensuite redonné à la population. Il y a un exemple qui a particulièrement marqué au cours des dernières années, ce sont les stades qui ont été abandonnés. C'est exactement ce que vous avez dit, ce qu'on appelle les éléphants blancs. En gros, vous mettez des milliards d'euros sur la table pour construire un stade potentiellement au milieu d'un territoire qui n'est pas sportif et qui, quelques semaines après leur utilisation pour des Jeux Olympiques ou Paralympiques ou Coupe du Monde, va être complètement inutilisée. Aujourd'hui, la démarche est vraiment inverse, où le CIO a compris qu'il y avait quand même un intérêt à plus se lancer dans des choses trop gigantesques, avec notamment ce qu'il a appelé l'agenda 2020, qui appelle un peu plus à la sobriété et surtout à l'héritage, où en gros, le message qui est passé, c'est vous voulez accueillir des Jeux, ok, comment est-ce que vous les préparez avant? Comment est-ce que vous faites en sorte que ça se déroule bien? Et comment vous préparez la suite? Et comment est-ce que accueillir des Jeux, c'est pas juste accueillir des compétitions et accueillir des délégations, c'est aussi comment est-ce que dans votre pays, vous allez pouvoir essayer d'impulser, insuffler une espèce de... une place plus importante pour le sport, dans l'éducation, dans la santé, dans la culture, et comment est-ce que ça peut ensuite... faire changer la société. C'est un vrai pari.
C'est pour ça que le mot héritage
Exactement.
Est répété un peu comme, comme un mantra par les organisateurs de Paris 2024.
Manuel Tissier, c'est dans 2 ans, les JO. Est-ce qu'on va briller Armand Rendager disait 80 médailles. On va regarder le classement Tokyo 2020, mais c'était Tokyo 2021. On était 8e, là encore, derrière les... Ils sont bons, une fois de plus, c'est toujours les mêmes. Hein, les Anglais et les Pays-Bas qui sont 7e. Comment ils ont fait les Anglais? Alors, vous le disiez, ils ont ciblé des bons jeux, mais nous, on va briller ou pas? Ou ça va être difficile?
Briller, tout dépend ce qu'on entend sous le terme briller. Est-ce que c'est faire aussi bien qu'on a fait dans les jeux précédents? Non, ça ne serait pas briller, c'est faire mieux, puisque à domicile, il y a la prime à domicile, normalement. Après, les spécialistes de la performance, il y a des spécialistes, d'ailleurs des directeurs qui ont été nommés de la haute performance. C'est Claude Onesta, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de handball. Il y a l'INSEP aussi. Il y a quelques pôles d'excellence qui se sont mis en mouvement. Mais même eux disent que l'objectif de 80 médailles semble injouable parce que des Jeux Olympiques, ça se prépare pendant 2 Olympiades avant. Il faut trouver les ressources humaines, on va dire, préparer, faire venir des entraîneurs, que les athlètes arrivent à maturité, c'est-à-dire disputent aussi d'autres épreuves avant. Donc là, c'est presque déjà trop tard pour espérer inverser la tendance. Londres avait commencé effectivement 20 ans avant.
Alors, quand on voit le classement, on dit, il n'y a pas la Russie là à ces Jeux de Pékin à cause de dopage. Est-ce que le dopage, c'est vraiment comme dans le cyclisme, est-ce que c'est quelque chose dont on ne parle pas mais qui pollue énormément et qui fausse les Jeux Olympiques? C'est vraiment une question naïve que je vous pose.
Le dopage en Russie, on a coutume de dire que ça a été institutionnalisé. Et si aujourd'hui, c'est le comité national russe et non pas la Russie, c'est qu'il y a eu une révélation sur les Jeux Olympiques de Sochi avec une méthode de dopage qui était digne du KGB.
Dans le KGB.
Manuel a pas vraiment raison, mais le mouvement olympique aujourd'hui et les Jeux Olympiques doivent régler 2 problèmes majeurs. Un problème d'intégration de l'organisation des Jeux Olympiques dans la politique du pays, la politique territoriale, avec toutes les conséquences politiques que ça peut avoir de non-indépendance, c'est une première chose. Et il y a une question d'éthique. Et là, ça devient quelque chose de majeur.
C'est-à-dire ?
Parce qu'il y a non seulement le dopage. Aujourd'hui, il faut savoir, pour masquer son dopage, on est plus en avance que pour se doper soi-même. C'est quand même important. Et en Russie, ça a été une institution.
Il y a des disciplines qui sont spécialement sujettes à dopage ?
Quasiment toutes, des disciplines plus que d'autres, mais tous, vous trouvez n'importe quoi. Mais
pardonnez-moi, parce que moi, je me dis le ski alpin ou
la danse sur glace, c'est
la technique, c'est pas la performance.
Ce qu'ils font, c'est une chose qui est très dure. Les Norvégiens ont été accusés de dopage, vu le nombre de médailles qu'ils avaient. Mais bon, il n'y a pas tellement la preuve complète. Mais quasiment tous les sports sont plus ou moins victimes du dopage à cause de la recherche de la médaille, de la performance, de la surperformance. Puis il y a un deuxième problème, c'est le problème de l'équité, de la légitimité, de la crédibilité des résultats liés à la manipulation des résultats liés aux paris sportifs. Ça, c'est un problème majeur.
Les équipes font l'exprès de perdre parce que certains ont misé sur l'autre équipe.
C'est plus facile. Mais c'est les équipes ou sur les individus. De perdre un jeu ou un point au tennis ou de se faire marquer un but à la 84e minute et tout ça, puisqu'on parie maintenant à la seconde. Ça a été un effet énorme sur la crédibilité, la légitimité des résultats. Et là, il y a vraiment un travail important à faire. Le dopage, ça me paraît assez tardif maintenant pour le vaincre. C'est d'autant plus compliqué, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 courants qui s'affrontent dans le mouvement du sport en général. Mais attendez, pourquoi on va ennuyer, pour ne pas dire emmerder, pour reprendre un terme, les sportifs qui se dopent pour être champion, alors qu'un écrivain, un peintre, ou pour passer son bac, on se dope, on ne va pas annuler le résultat du bac, ou dire que la peinture n'est pas bonne.
On n'a pas besoin de se doper pour...
Il y a des gens qui considèrent que c'est une forme de drogue, que c'est... Non, mais il y a des courants qui considèrent qu'aujourd'hui, on ne peut plus contrôler correctement le dopage, donc laissons faire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Et d'autres qui disent non, au contraire,
ça fausse le résultat.
C'est que ça fait perdre aussi la valeur du sport parce que le sport, ce qui en fait sa valeur, c'est l'incertitude. C'est l'incertitude et la concurrence. Donc,
si c'est deux labos qui.
Qui s'affrontent.
Ils sont en compétition.
Armstrong en cyclisme, ça a été quelque chose d'effrayant.
Pour le coup, sur la question en plus du dopage, c'est intéressant parce qu'il y a aussi un vrai affrontement entre les différentes nations. L'Agence mondiale antidopage a été créée à la suite notamment de l'affaire Festina. En 98-99, Marie-Georges Buffet est intervenue, etc. Et il y a eu cette agence qui a été montée. À la suite de l'affaire de dopage russe, les États-Unis se sont vraiment montrés, étaient vent debout contre cette affaire. Ils ont vraiment décidé de se saisir de ce sujet en considérant que l'Agence mondiale antidopage ne faisait pas le travail suffisant. Et donc les États-Unis, au titre du Rodchenkov Act, qui était une loi qui était passée sur le sujet, et considérant que au regard de l'extraterritorialité de ces lois, pouvait devenir le gendarme blanc et le chevalier blanc, et donc assurer donc le rôle que l'Agence mondiale antidopage ne pouvait pas assurer. Et donc à plusieurs reprises, ils se sont montrés extrêmement véhéments, brandissant ce Rodchenkov Act, en considérant que si l'Agence mondiale antidopage ne faisait pas son boulot,
eux-mêmes l'imposeraient aux autres du monde. Avec leur fameuse loi extraterritoriale.
Exactement. Ce qu'on retrouve dans n'importe quel domaine de l'économie, de la politique. Et donc là, une fois de plus, c'est comment est-ce que la politique est présente et omniprésente dans le domaine du sport sur un sujet aussi précis mais aussi sensible que le
dopage. C'est très grave.
L'Amérique, gendarme du monde, y compris dans le dopage.
C'est l'évolution complète, parce que le sport, à l'instar, j'allais dire, excusez-moi, de la drogue ou de la prostitution ou du commerce d'armes, est un écosystème. Et jusqu'à maintenant, c'est un écosystème qui a son propre droit. Comme dans la religion, il y a le droit canonique, il y a la loi sportive, l'Alex, et ainsi de suite. Mais ça commence à être battu en brèche
par les
politiques et des États qui interviennent. Mais maintenant, le FBI, la police et tout ça interviennent maintenant dans le monde du sport. Et ça, c'est terminé. Les barrières tombent.
Bon, on parle du roi des
Donc
sports.
Donc ça va évoluer.
D'un sport où vraiment là, on est champion du monde.
Hein. Le foot.
Allez, on relit la soirée du dimanche 15 juillet 2018. La joie dans toutes les rues de France et de Navarre. Après cette fameuse victoire contre la Croatie en finale de la Coupe du Monde de football, le sujet de Stéphanie Pérez.
Un doux vent de folie. Des Invalides à la gare Montparnasse. Des grands boulevards à la place Saint-Michel. Pour un clapping de bonheur.
Je me sens trop euphorique parce qu'en 98 j'avais 3 mois donc j'ai pas pu le vivre. On attend 2038 et ça va être trop bien. On y croyait et 1 et 2 et 3, 4, 2, j'ai envie de te dire la vie est belle.
Alors Manuel Tissier, comment expliquer on va passer là, le Bernard Tapie lui-même après 93, il s'était mis à pleurer et il dira on ne devrait pas se mettre dans un tel état, ça n'est que du foot, on est des gamins. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on devient comme des dingues, la fille qui dit ma vie est plus belle quoi, hein, ça vous prend dans la chair. Hein.
Ouais, j'ai envie de te dire la vie est belle quoi, parce que bon alors il y a tout un contexte, c'est l'été, c'est la Coupe du Monde et on se retrouve porté derrière les valeurs et derrière des idoles, des gens qu'on admire. Et qui représente un groupe social, la France. Donc c'est aussi
une fibre
patriotique que ça réveille chez chacun d'entre nous. Et puis c'est l'envie de communier aussi dans des moments où la religion, la politique aussi fait peut-être un petit peu moins rêver, divise. Là, on communie tous ensemble. Et donc c'est joyeux. Donc il y a cette joie qui fait perdre un peu toute rationalité. Moi, j'étais frappé, j'y pense depuis hier, la une d'hier du Parisien sur Kylian Mbappé reste. Cette espèce de prière, ce journalisme groupie m'a fait rire parce que ça enlève quasiment toute froideur, toute rationalité. Mais bon, ça fait du bien de temps en temps, sauf que parfois, il faut remettre les pieds sur terre, c'est effectivement que du foot.
Carole Gomez, est-ce que c'est fédérateur? On a vu là des filles. Est-ce que le foot, c'était un truc de mec? Est-ce que ça devient plus paritaire? J'allais dire, sur le terrain et dans les tribunes. On a l'impression que sur le terrain, contrairement au tennis, il n'y a pas la même ferveur. Hein.
Alors ça, c'est l'héritage d'années et d'années de mise de côté. L'avantage du tennis, c'est que dès le début, ça a été un sport qui a été relativement mixte. On se souvient, Suzanne Lenglen était au début du XXe siècle.
Suzanne et donc, Lenglen.
On a vraiment un modèle sur lequel on peut, jeune fille, femme, arriver à se représenter.
Et donc, c'était il y a un siècle, Suzanne Lenglen.
C'était 1920.
On l'appelait la divine. On voit sa photo.
Ouais, tout à fait.
Ça veut dire que très tôt, le sport, à une époque où la société française était entièrement masculine, le tennis, lui, était déjà paritaire.
Parce que c'était dans une logique aussi de sport. C'était plutôt une pratique bourgeoise. Et donc, à ce niveau-là, il y avait une possibilité pour ces... pour ces femmes de pouvoir pratiquer. Dans le domaine du football, et la dernière Coupe du Monde qu'on a organisée en France en 2019 est particulièrement intéressante, puisqu'en fait, on a redécouvert une histoire du football au féminin qui a existé très rapidement après la pratique masculine, qui s'est développée et qui a été interdite, où il y a eu des interdictions légales, des interdictions formelles données au sein des clubs. Et donc, il y a vraiment eu une disparition pendant 40 ans où c'était tout simplement interdit pour les femmes de pratiquer. Et après, on a revu une émergence dans les années 60, 70. La FIFA n'était pas vraiment contente de voir émerger ça, puisqu'on est d'accord que ça n'allait pas intéresser grand monde. Alors qu'au contraire, on a senti une espèce de développement. Et là, la FIFA, en 2018, s'est rendu compte qu'il pouvait être sans doute intéressant de publier pour la première fois depuis sa création en 1904 une première stratégie globale pour le développement du football féminin, 114 ans après le début. C'est quand même plutôt pas mal comme début. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai intérêt à développer sur ce sujet pour deux raisons. Un, parce que ça permettait d'avoir plus de pratiquantes et donc plus votre fédération a de pratiquants et plus elle est puissante. Et deuxième élément, il y a aussi un objet bassement matériel. Si vous avez plus de pratiquantes, vous avez plus de consommateurs, consommatrices.
Un nouveau marché, quoi.
Et donc, c'est un nouveau marché qui va s'ouvrir.
Les États-Unis, il y a l'exemple typique.
Armand de Rendinger, pourquoi le foot est-il planétaire? Pourquoi on dit que c'est le roi des sports? Il est planétaire parce que, comme on l'a dit au début, hein, pour être champion de descente olympique, il faut avoir des Alpes. Oui, là, le foot, c'est beaucoup plus facile.
Parce que dès que vous commencez à marcher, vous tapez dans un ballon.
Ah, voilà.
Donc, vous avez 7 milliards de gens qui vont taper dans un ballon. Non, mais c'est la vérité.
Ça coûte pas cher.
Ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Et donc, n'importe qui plus est dans les pays, je veux dire, en voie de développement, c'est le sport roi, le football. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on peut très rapidement s'identifier à des grands champions, des grands footballeurs, Mbappé. Voilà, on s'identifie, on tape dans le ballon avec lui. Puis troisièmement, la FIFA, l'UEFA, je veux dire, ont été très en avance dans l'organisation de leur fédération, de la gouvernance du football mondial. À telle enseigne que, sous l'ère Samaranch, les Jeux Olympiques ont essayé à tout prix de rattraper, de faire intégrer le football dans le mouvement olympique pour éviter que l'argent parte ailleurs. Mais ils ont toujours gardé cette forme d'indépendance. Donc aujourd'hui, eh bien, c'est excessivement riche, ça le sera de plus en plus, avec toutes les conséquences que ça peut avoir en matière de violence dans les stades, en matière de conflits vraiment très très importants, la notion de racisme, tout ce qui peut exister, même de la non-égalité homme-femme, ça va aller en s'empirant malheureusement.
Le racisme, les sportifs se battent. Enfin,
c'est le
genou à terre. Même on les accuse finalement d'importer la politique dans les enceintes.
Oui, mais Axel, vous avez parfaitement raison. Mais aujourd'hui, qui est-ce qui dirige le sport? Ce sont les fédérations, c'est la gouvernance olympique, la gouvernance sportive. Ce ne sont pas les athlètes. Dans l'histoire de Pyeongchang, la tennis woman, où es-tu? C'est très clair. Certains sportifs se sont réveillés. On dit, mais attendez, nous, on voudrait savoir. On ne voudrait pas aller en Chine. Maintenant, on refuse de pratiquer le tennis là-bas. Si jamais on n'a pas des bonnes réponses de la part du gouvernement chinois. Toutes les structures, à l'exception de la UTOA, se sont écrasées. Ils disent, non, attendez, on ne touche pas à ça. Les Chinois,
parce qu'il y a les sponsors derrière.
Les sponsors derrière. Il y a la contribution de la Chine et ainsi de suite. Donc, on s'est écrasé. Mais là, on commence à avoir un mouvement des athlètes. Et ça, c'est très important. Je ne crois pas du tout au soviet des athlètes. Mais je pense que dans quelques temps, un certain nombre de groupes d'athlètes vont commencer à discuter avec les fédérations pour dire
donc,
nous, on ne va pas n'importe où.
Donc, quand l'équipe de la Norvège dit nous, on va boycotter la Coupe du Monde du Qatar.
Ça, c'est important quand c'est dit, c'est l'équipe, quand c'est les footballeurs qui le font. Quand c'est la structure elle-même, effectivement, c'est important. Dans la mesure où ce n'est pas qu'un simple boycott diplomatique, parce que les boycotts diplomatiques, ça ne sert à rien.
Ouais.
Aucun boycott n'a marché, par la guerre. Mais
sauf qu'on a tellement envie de la voir et d'y jouer à cette Coupe du Monde de football que qui ira jusqu'au bout?
Sauf si c'est les athlètes qui iront jusqu'au bout.
À boycotter la Coupe du Monde 2022 au Qatar.
Je ne pense pas que ça ira jusqu'au boycott, non. Parce qu'effectivement, il y a un mouvement qui est énorme, qui est à la fois politique et économique. Je voudrais juste ajouter un petit bémol à l'universalité du football. Le foot, ce n'est pas la fédération la plus riche. Plus riches, la plus puissante, c'est la NFL, c'est la National Football League, du foot américain.
Là,
il
n'y
a rien
Super
de moins
Bowl.
Universel que le...
Il y a que les Américains qui jouent à ça.
Oui, et pourtant, c'est les plus puissants au niveau mondial.
Parce
qu'il y a une stratégie, parce qu'effectivement, le marché est énorme, mais aussi parce qu'il y a une politique très agressive. La NBA aussi a c'est un marché mondial, en fait, qui, grâce aux réseaux sociaux, la Formule 1, a réussi à prendre des parts de marché. Et le football, Armand, vous disiez, ils vont continuer à être très riches. Ils sont quand même en train de se poser beaucoup de questions parce que leurs parts de marché sont en train de se faire grignoter. Les jeunes font beaucoup moins de sport. en ce moment. Les dernières études le montrent, la pandémie n'a pas aidé. Et les parts de marché du foot sont en train de diminuer. Donc on se pose des questions sur les règles. Ça vieillit, les jeunes sont sur les jeux vidéo. La NBA, la NFL, tout ça prend des parts de marché. Il y a un vrai combat.
Et la multiplicité des compétitions.
Et la multiplicité des compétitions.
Ça, c'est important.
Merci d'avoir participé à cette émission. Manuel Tissier, ce soir, 22h30, on regarde temps additionnel.
Mais oui, il y aura Tesla 2, la médaillée d'argent de freestyle. On parlera aussi All-Star Game et on sera aussi en visio avec Estelle Mosley, la boxeuse qui va disputer un championnat du monde dans un mois à Dubaï.
Voilà, 22h30 sur France Info. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Alors, vous savez que l'Info C'est Clair part en vacances pendant 15 jours pour faire du sport. Prochaine émission le lundi 7 mars. Donc, on revient dans 15 jours. Hein, on sera bien là. Je rappelle que c'est dans l'air, disponible gratuitement en podcast audio si vous voulez regarder pendant les vacances sur toutes les bonnes plateformes. L'Info C'est Clair. J'en profite pour faire un grand merci aux deux personnes avec qui je travaille. Et sans qui cette émission ne serait pas possible. J'ai nommé Margot Partonneau et Carole Vial, puisqu'on est trois à faire l'Info C'est Clair. Bravo, voilà.
On fait la hola.
Merci beaucoup.
Mais là, il dort.
Bonne journée. Vous restez sur France Info et on se retrouve dans deux semaines.